Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Éclairage s'intéresse dans cette nouvelle émission à la question de l'adoption en France. Une émission qui ne porte pas directement sur les difficultés d'adopter, des difficultés que l'on sait très nombreuses. Rappelons que pour 20 à 30 000 familles agréées, seulement 4 000 accueillent un enfant chaque année. Non, cette émission s'intéresse aujourd'hui à un point particulier, celui de l'adoption nationale. Adopter un enfant né sur le territoire français. Ce sont des enfants orphelins ou dont la mère a accouché sous X, des enfants abandonnés ou encore plus délicats, des enfants déclarés pupilles de la nation par la justice, car estimés en danger dans leur cellule familiale initiale. Jean-Marie Mantz, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes responsable du service de réanimation au CHU de Strasbourg, doyen honoraire de la faculté de médecine de Strasbourg et président du comité d'éthique des facultés et du centre hospitalier régional toujours de Strasbourg, et également membre de l'Académie nationale de médecine et auteur du rapport « Faciliter l'adoption nationale », rapport édité accompagné de Aline Marcelli, juriste, et Francis Vatel, également réanimateur comme vous. Pourquoi vous, réanimateur, et Francis Vatel, également réanimateur, vous êtes intéressé à cette particularité de l'adoption nationale qui, je le précise, ne concerne finalement qu'assez peu d'enfants adoptés? Je disais il y a quelques instants, 4000 enfants adoptés en 2008, hein, précisons que c'est pour l'année 2008. Sur ces 4000, moins de 800 sont nés en France. Pourquoi vous êtes intéressé à cette particularité?
Parce qu'en tant que réanimateur médical, j'ai eu, comme mon collègue Francis Vatel, l'occasion à de nombreuses reprises d'être en présence d'enfants maltraités ou dont les parents s'étaient désintéressés. Et ceci nous a amené à prendre des contacts, en particulier avec les travailleurs sociaux ou avec les enseignants, de façon à tenter de clarifier les causes et de corriger les effets.
Alors, je le disais au tout début de cette émission, 4000 enfants adoptés en 2008, sur ces 4000 enfants, 800 adoptés à l'intérieur du territoire français. Est-ce qu'il est plus facile d'adopter à l'étranger qu'à l'intérieur de nos frontières? Et si oui, pourquoi?
Oui, il est plus facile d'adopter à l'étranger, encore que il y ait des difficultés supplémentaires qui tiennent aux particularités ethniques, culturelles, législatives, religieuses de ces différents pays. Mais dans l'ensemble, la législation, dans certains pays du moins, la Russie, la Chine, le sud-est asiatique, la législation est plus permissive et permet donc d'adopter plus facilement. Il faut tout de même noter qu'au cours des dernières années, on assiste à la promulgation de législations plus contraignantes dans ces mêmes pays, sans doute pour défendre leur image de marque vis-à-vis des droits de l'enfant et en particulier le souci de se mettre en conformité, au moins apparemment, avec les directives des Nations Unies concernant la Charte de l'enfant publiée en 1989.
Alors, dans ce rapport, dans toute première page, il se trouve deux graphiques qui sont assez intéressants. J'aimerais que vous puissiez nous les commenter assez rapidement. Le premier montre l'adoption nationale avec, dans les années 80-85, 1749 adoptions nationales, hein, donc à l'intérieur du territoire français. En 2008, donc 726, hein, divisé de plus de la moitié.
Plus de la moitié.
Et puis parallèlement, cette adoption à l'international qui alors monte en flèche avec des pics en 1995 et en 2005, si je regarde correctement ce graphique. Oui. Comment vous expliquez cette baisse en flèche de l'adoption nationale et parallèlement ces pics pour l'adoption internationale en 1995 et en 2005?
En ce qui concerne la diminution régulière de l'adoption nationale depuis 20 ans, c'est un constat. Il est certain que...
Il n'y a pas d'explication.
Il y a sans doute une cause, ou plusieurs causes. L'une d'elles me paraît être la difficulté que les parents rencontrent pour adopter un enfant qui leur convienne, en raison de la lenteur du processus législatif et administratif d'adoption qui fait qu'entre les informations préoccupantes initiales et la déclaration d'adoptabilité de l'enfant, il se passe en moyenne 5 ou 6 ans. À ce moment-là, les enfants entrent dans la catégorie des enfants dits à particularité, en raison de leur âge, enfants qui ont peu de chances d'être adoptés parce que les parents veulent des enfants généralement plus jeunes. C'est sans doute une des raisons majeures de la difficulté ou de la diminution progressive de l'adoption en France.
Mais ces mesures prennent du temps également pour l'adoption à l'international.
Moins, je pense. La législation est moins contraignante en général, encore que des mesures récentes étaient prises et qui expliquent probablement la stabilisation, ou non pas ces pics, mais ces cassures dans l'évolution régulièrement croissante de l'adoption internationale, qui tient au fait qu'on exige maintenant, par exemple en Chine, que les enfants soient déclarés adoptables en Chine pour qu'ils puissent être proposés à l'adoption internationale. Donc il y a une petite restriction maintenant qui explique sans doute la forme de la courbe.
Venons-en à l'adoption nationale. Je le disais en présentant cette émission que les enfants français potentiellement adoptables en France sont des enfants abandonnés, des orphelins, nés dans le secret. Et il y a aussi les enfants dits en danger. Qu'est-ce qu'on appelle les enfants en danger, Jean-Marie Mons ?
Les enfants en danger ont été définis par l'ODAS, c'est-à-dire l'Observatoire national de l'action centrale décentralisée. Eh bien, l'ODAS considère que les enfants en danger correspondent à 2 catégories d'enfants, les enfants à risque et les enfants maltraités. Les enfants à risque sont des enfants qui ont des conditions d'existence qui constituent une menace pour leur santé, leur sécurité, leur moralité, leur éducation, leur entretien aussi, mais qui ne sont pas maltraités. Tandis que les enfants maltraités subissent alors des sévices physiques, psychologiques, sexuels surtout, au cours des dernières années, et en tout cas des négligences graves. Voilà les 2 catégories d'enfants qui entrent dans le groupe des enfants en danger. Alors que les enfants orphelins, ou nés sous X, ou abandonnés volontairement par les parents, n'ont pas fait l'objet d'une mesure officielle de protection administrative ou judiciaire et ne sont pas considérés comme des enfants en danger. Je reviens au chiffre de 726 enfants adoptés en 2008. Il n'y avait que 132 enfants en danger. Chiffre à mettre en regard avec les 250 000 ou 300 000 enfants en danger officiellement dénombrés dans notre pays. Et aussi avec le chiffre de 25 à 30 000 familles agréées qui attendent qu'on leur confie un enfant.
Oui, donc effectivement, vous militez ouvertement pour une ouverture à l'adoption envers ces enfants délaissés ou maltraités. Délaissés aussi, hein, c'est un terme
délaissés
qui est
aussi,
intéressant.
Maltraités certainement, délaissés pour lesquels les parents ont manifesté un désintérêt.
Mais j'imagine qu'il est quand même très difficile de prouver par A plus B qu'un enfant est à risque ou est maltraité psychologiquement. Autant les services physiques, je pense qu'on peut rapidement mettre le doigt dessus. Vous, en tant que réanimateur, je pense que vous avez été confronté à ça. Est-ce que vous avez aussi constaté, vous, par exemple, des sévices psychologiques sur un enfant dans votre carrière ?
Oui, certains dossiers portent essentiellement sur des sévices psychologiques, mais je voudrais faire une parenthèse à propos des sévices physiques, n'est-ce pas ? Les difficultés sont quelquefois grandes, même quand les sévices sont physiques, d'affirmer la maltraitance, étant donné la perversité et la capacité de dissimulation des parents, qui masquent très longtemps leur forfait. À vrai dire, souvent, le diagnostic est facile quand on est en présence d'hématomes, c'est-à-dire de bleus ou de fractures ou de brûlures récidivantes. Mais ce qui est frappant, c'est que dans le cas de la maltraitance, par exemple, les médecins se réfugient très souvent derrière l'article 4 du code de déontologie qui prône le respect absolu du secret médical. Il y a bien quelques dérogations, mais ce sont des autorisations et non pas des injonctions.
Alors pourquoi les médecins auraient peur à ce moment-là de...
Eh bien, d'abord peur de se tromper.
De faire un mauvais diagnostic.
On peut se tromper aussi. Certaines pathologies ont des symptômes qui sont voisins de ceux qu'on observe en cas de maltraitance. Là, il faut les connaître et les éviter. Mais dans l'ensemble, le diagnostic est le plus souvent facile. Et les médecins, d'abord, craignent les représailles, ou plus exactement, les représailles juridiques en particulier, de la part des parents qui se retournent souvent contre les médecins pour violation du secret professionnel. D'autant plus que, comme je le disais à l'instant, l'article 4 recommande le secret absolu. Et c'est une des choses que nous aimerions voir changer, qu'au contraire, en cas de sévice physique ou psychologique avéré, le retrait des droits parentaux soit prononcé sans délai par les juges et que l'article 4 du code de déontologie soit modifié dans le sens d'une obligation de déclaration.
Vous parlez du retrait des droits parentaux, ça va quand même très loin, ça veut dire que l'enfant devient pupille de la nation, ça existe déjà, mais c'est exprimé dans de rares cas quand même.
Effectivement, je peux vous donner des chiffres précis. Sur les 132 enfants en danger adoptés en 2008, 16 étaient des enfants pour lesquels un retrait des droits parentaux a été prononcé, ce qui est très faible.
Alors, comme vous l'avez expliqué au début de cette émission et thème que vous développez, ce sont des enfants dits à particularité, c'est-à-dire qui ont déjà un certain âge. Est-ce qu'il est judicieux de retirer les droits parentaux d'un enfant qui a déjà 6-7 ans et qu'on sera jamais adopté et qui sera ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil? Qu'est-ce qui est le mieux entre la peste et le choléra? Vous me direz, entre des parents qui peuvent maltraiter un enfant et un enfant qui est ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil.
Mais il y a tout de même la troisième solution qui est l'adoption. Ces enfants qui sont ou maltraités ou ballottés d'une famille à l'autre trouveraient tout de même des conditions de vie beaucoup plus confortables et peut-être même dans certains cas le bonheur auprès de familles d'accueil généreuses et motivé. Je pense que l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est en cause dans la question que vous me posez, c'est, me semble-t-il, de remplacer une famille pathologique et dangereuse par une famille généreuse.
Mais il y a cet aspect effectivement généreux, famille d'accueil, mais ces parents qui sont candidats à l'adoption, ils aimeraient adopter un enfant d'un an, de deux ans, de trois ans, mais pas forcément un enfant de dix ans, qui arrive avec, ça se comprend aussi, qui arrive avec tout son lot de malheurs et qui est certainement déjà marqué
tout à fait,
presque à vie par les persécutions, les sévices qu'il a subis.
Vous avez raison, vous posez là la question de la finalité de l'adoption. Pourquoi adopte-t-on un enfant ? Ça peut être parce qu'on veut satisfaire un désir d'enfant, ou bien on peut mettre en avant le souci du bonheur de l'enfant. Ce sont deux motivations différentes. Et justement, dans les recommandations que l'Académie, que le groupe de travail propose, il y a la création d'une filière de famille d'accueil choisie parmi les candidats bénévoles, de sorte que le côté matériel, financier est totalement écarté et ces familles-là font la preuve de leur souci d'apporter le bonheur à l'enfant et non pas de satisfaire simplement le désir d'enfant. C'est toute la finalité de l'adoption qui est en cause là.
Alors avant de marquer une pause, quand même, intéressons-nous rapidement à ces parents qui ne sont pas les parents idéaux, hein, dont tout le monde rêve. Est-ce qu'on peut dresser un profil psychologique de ces parents ? Et est-ce que, surtout, il est possible, une fois qu'on a déterminé des parents qui délaissent leur enfant ou qui leur font du mal psychologiquement ou physiquement, est-ce que l'on peut essayer de résoudre les problèmes psychiques de ces parents et rétablir, on va dire, une famille idéale, pour faire court et simple ?
Oui, on essaie en tout cas. C'est la mission des travailleurs sociaux, des éducateurs qui essaient de raisonner les parents et de leur apporter des arguments en faveur d'un comportement différent. Mais il faut bien dire que la plupart des études qui ont porté sur la psychologie de ces parents maltraitants mettent en évidence une perversité et une capacité de dissimulation qui paraît au-dessus de toute possibilités thérapeutiques. Ce sont des malades, ce sont des gens dont la personnalité est profondément perturbée sous une apparence de normalité, ce qui rend le diagnostic particulièrement difficile.
De la même manière que l'on pourrait dresser un profil psychologique, hein, vous me l'avez dit, ce sont des personnes qui sont malades, de la même manière, est-ce que l'on peut dresser un profil social? Est-ce qu'il existe un profil social des parents qui maltraitent leurs enfants?
Non, on peut dire que toutes les catégories sociales sont représentées. On a longtemps pensé que c'était surtout les familles défavorisées, en précarité, qui alimentaient la plus grande partie de ces cas pathologiques. Eh bien, la précarité n'est en cause, d'après les chiffres que j'ai pu lire, rapportés par Jean-Marie Colombani en particulier, qui a consacré un important rapport à cette question, ne dépasse pas 10 à 13% des cas. Et dans tous les autres cas, ce sont des familles très différentes les unes des autres et souvent des familles aisées.
Alors, je vous propose de marquer une pause, si vous voulez bien, Jean-Marie Mantz. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission passionnante. À tout de suite.
Musique. Que me veux-tu ? Parodiant la formule célèbre du philosophe Fontenelle, Gilles Cantagrel s'interroge. Musique. Que me veux-tu ? Plaisir de l'ouïe et des sens, oui. Mais aussi, langage au-delà des mots, dans les sons et les formes. Alors, que nous dit la musique ? Au cours de la première émission de cette série, Gilles Cantagrel évoque Jean-Sébastien Bach. Bach, entre le doute et la foi, son angoisse existentielle et son angoisse métaphysique que sublime sa musique.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Jean-Marie Mantz, avec qui nous parlons de l'adoption nationale et plus particulièrement de ces enfants dits en danger qui pourraient, en tout cas c'est votre souhait Jean-Marie Mantz, qui pourraient être candidats à l'adoption. Si vous le voulez bien, démarrons cette deuxième partie par deux faits divers. Les faits divers, par définition, sont souvent sordides. Le premier, c'est celui d'un enfant qui s'appelle Dylan, dont le cas a été révélé en 2009. Un enfant de 7 ans qui n'a jamais été scolarisé, enfermé dans une pièce avec un matelas imbibé d'urine et dont les parents furent poursuivis pour abandon matériel et moral. Comment vous interprétez ce fait divers qui a été relayé à l'époque dans les médias, Jean-Marie Mantz ? C'est quelque chose de plus régulier qu'on ne pense ?
Ces faits amènent à présenter plusieurs commentaires. Tout d'abord, les médias présentent souvent ces faits dramatiques, dans le cas particulier, d'une façon que je qualifierais d'anecdotique. Le mot peut surprendre, mais je veux dire par là qu'une anecdote est un fait bref, une histoire brève, courte, plaisante ou non, et qui est sans lendemain. Or, c'est un petit peu comme ceci que la plupart de ces observations apparaissent dans les médias et dans la presse en particulier. Le lendemain, on n'en parle déjà plus. Et ce qu'est devenu l'enfant, en dehors des cas mortels, après cet épisode, on l'ignore. Et on ignore aussi qu'en dehors de ces cas qui représentent la partie émergée de l'iceberg, il y a 20 000 enfants maltraités en France actuellement, sans parler de ceux qui se maltraitaient dans la clandestinité, sans témoins et sans défense. Donc il y a là un aspect particulier des médias qui ont tout de même, qu'ils le veuillent ou non, un rôle non seulement d'information, mais de formation. Et il serait souhaitable que les commentaires qui sont faits dans les journaux en particulier amènent le public, les auditeurs ou les lecteurs à réfléchir et à se poser des questions sur les conséquences et la gravité de cette situation. Mais autrement, bien sûr, quand on lit ces observations, on ne peut manquer de constater qu'il y a eu des défaillances, des anomalies, des vices de forme et aussi des négligences probablement. Et ce n'est pas mon rôle de porter des critiques contre qui que ce soit, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas probablement de blocage prémédité, il n'y a pas de blocage de l'adoption volontaire, mais simplement la prise des décisions dépend d'un grand nombre de facteurs, à différents niveaux. Par exemple, les citoyens sont déjà concernés au niveau des informations dites préoccupantes. Il faut que quelqu'un enclenche le processus. Mais également au niveau de l'aide sociale à l'enfance, qui peut classer le dossier sans suite ou qui peut faire un signalement ou décider une aide à domicile. Au niveau des juges, l'issue du problème dépend souvent de l'interprétation que les juges font de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est aussi leur droit, n'est-ce pas? Et les interprétations sont souvent divergentes. C'est le cas aussi des familles biologiques qui doivent être consultées. Et dans certains cas, c'est le cas aussi des familles d'accueil. On a parlé tout à l'heure des problèmes des enfants à particularité. Donc, il y a là tout un ensemble de facteurs qui, à différents niveaux, interfèrent dans la décision. Et chacun se trouve dans une situation difficile parce que il faut d'abord vérifier l'exactitude des faits. Ensuite, il est nécessaire de ne pas prendre une décision sous le coup de l'émotion ou d'une sensibilité exacerbée. Il faut aussi ne pas craindre de s'engager lorsqu'on a la conviction qu'il y a une anomalie majeure. Et d'une façon générale, on peut dire que ce qui est en cause, l'enjeu de toute cette affaire, c'est tout de même le bonheur, l'avenir et souvent la survie de l'enfant. C'est donc un problème de morale personnelle, d'éthique en quelque sorte.
Alors je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit, puisqu'en fait vous avez devancé mes propos sur justement ce qui précédait cette information factuelle, puisqu'effectivement c'est une dépêche, et ce qui a suivi cette information, effectivement concernant cet enfant Dylan, dont l'information a été relayée dans la presse en 2009, les services sociaux avaient commencé donc à s'intéresser à ce couple, à ses parents, à la naissance de leur deuxième enfant, et cela en octobre 2007. Donc ça fait déjà depuis 2007, il s'est passé 2 ans où effectivement, et c'est ce que vous nous expliquez avec beaucoup de prudence, il est très difficile d'établir un diagnostic, de ne pas se tromper, de dresser le bon diagnostic et de faire attention, comme vous nous l'aviez dit en première partie d'émission, aux potentielles représailles auxquelles les parents pourraient s'allier pour pouvoir contredire, par exemple, effectivement, les données du médecin. Un autre exemple, et puis après on va quand même passer sur l'interprétation des dessins, puisque vous nous avez apporté quelques dessins ici au studio de Canal Academy, vous allez pouvoir nous les décrire et nous les interpréter. Un autre exemple, alors encore un peu plus sordide, puisque là c'est le cas d'un enfant battu, mais battu à mort, dont les parents ont été écroués. Ça date de août 2010, où une mère et son concubin, à l'époque, avaient été mis en examen par un juge d'instruction à Senlis. Donc l'affaire se passe à Senlis, à la suite de violences présumées ayant entraîné la mort d'un enfant de 3 ans. Le beau-père de l'enfant a été poursuivi pour violence volontaire habituelle, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et l'enfant a succombé à ses blessures dans la nuit de mercredi à jeudi, donc c'était le 1er août 2010, à l'hôpital Necker à Paris. Là encore, un cas sordide, là effectivement c'est encore une dépêche à AFP, d'où l'aspect très factuel, mais qui j'imagine après suscite analyse et commentaires, et notamment analyse de votre part. Qu'est-ce que l'on peut dire de supplémentaire vis-à-vis de cet exemple ?
Oui, qu'on imagine mal que des drames pareils puissent encore se produire à notre époque, n'est-ce pas ? Mais encore une fois, tout tourne autour de la mentalité de ces parents maltraitants qui paraît au-dessus de toute ressource. Il est déjà difficile d'affirmer le comportement pathologique de ces parents et il est nécessaire de multiplier les contrôles et d'interroger, ce n'est pas le cas de cet enfant qui n'avait que 3 ans, mais quand ils sont un peu plus âgés, les enseignants à l'école. En cas d'hésitation, on peut s'adresser aux services hospitaliers qui ont la compétence nécessaire pour affirmer ou non le diagnostic. Tenir compte aussi du médecin scolaire qui a des contacts très précis avec les enfants, avec les parents, et qui a l'avantage d'occuper un poste administratif qui le distancie des parents. Dans ce type de problème, les dessins de l'enfant occupent une place intéressante qui peut servir à étayer un diagnostic.
Alors on va y venir. Juste avant, est-ce que c'est la médiatisation de ces faits divers qui donne l'impression qu'il y a de plus en plus de faits de cette ampleur, ou est-ce que réellement il y a de plus en plus d'enfants maltraités psychologiquement et physiquement par leurs parents ?
C'est difficile à dire. Il est sûr que la médiatisation contribue à cette impression, mais le nombre des enfants maltraités semble relativement stable d'une année à l'autre, autour de 19 000 à 20 000 enfants chaque année. Mais ce chiffre ne tient pas compte des nombreux enfants très probablement maltraités sous des formes diverses, clandestinement, à l'insu de tout le monde.
Venons-en à l'interprétation de plusieurs dessins. Vous nous en avez apporté une dizaine, mais on va en interpréter 4. Les 2 premiers sont des enfants heureux. Ce sont des dessins d'enfants où tout se passe bien.
En effet, oui. Celui-ci est un dessin fleuri et coloré qui traduit le bonheur de l'enfant dans sa famille.
Donc il y a le père, la mère, le frère, et puis l'enfant en question, avec un joli gazon et des petites fleurs, et un soleil.
Et le soleil, oui, c'est vrai. Et la verdure, des fleurs, de l'herbe. Mais quand on regarde, une parenthèse ici, quand on appréhende les dessins d'enfants, souvent on trouve que c'est un dessin joli, que c'est un... Mais il faut tout de même se méfier et voir, si possible, ce qu'il y a derrière. Voilà encore un autre dessin fort agréable à regarder, qui traduit sous une présentation joyeuse l'entrée du petit frère qui marche à quatre pattes vers ses aînés. C'est évidemment charmant. Mais dans les écoles, je précise que ce sont des enfants recueillis collectivement à l'école à la demande de la maîtresse, des enfants de 6 ans, n'est-ce pas ? C'est à ce moment-là que l'enfant qui ne parle pas utilise le dessin comme parole.
Comme langage.
Comme langage, oui. Par contre, on peut opposer de toute évidence à ces beaux dessins, entre guillemets, que je viens de montrer, le suivant, qui est un dessin d'enfant maltraité.
Alors, est-ce que vous pourriez de la même manière nous le décrire pour que nos auditeurs puissent comprendre ce que l'on voit ?
Voilà, il y a 3 personnages ici. L'enfant lui-même, la mère et la sœur de l'enfant.
Alors, la mère et la sœur ont un visage recouvert de noir.
Oui, mais le langage des couleurs est important dans ce domaine, n'est-ce pas ? Rimbaud l'a dit dans un poème célèbre, mais le rouge, le noir sont des couleurs violentes, de sang, de deuil, n'est-ce pas ? Alors que le bleu, le vert, le jaune également, couleurs plus lumineuses, correspondent souvent à des dessins beaucoup plus agréables, disons. Ici, c'est la mère qui est l'auteur des sévices, avec cette chevelure noire, cette bouche grillagée. Elle est redoutable d'aspect. Et l'autoportrait de l'enfant également, puisque cet enfant-là, dans un geste d'appel, peut-être des bras tendus, semble crier sa détresse.
Et avec un visage en rouge. Hein.
Visage rouge, bouche grillagée et des distorsions morphologiques tout à fait impressionnantes.
Donc là, c'est un cas de maltraitance. Et puis vous avez un autre dessin où là, pour le coup, c'est un cas particulier d'un enfant qui est revenu dans sa cellule familiale. Un enfant maltraité,
oui,
qui a effectué son retour au sein de sa cellule familiale.
Effectivement, d'un enfant maltraité qui a été mis à l'abri. On l'a placé dans une institution et après plusieurs années, en tout cas de nombreux mois, il a été rendu à sa famille avec une AMO, c'est-à-dire une aide éducative en milieu ouvert. Et les sévices ont recommencé sous une autre forme. Ici, la forme a pris l'aspect de ce dessin. On a demandé à l'enfant à l'école d'écrire les occupations de ses vacances. Il a décrit son incarcération dans sa chambre pendant les 15 jours de vacances.
Donc on voit un lit, on voit, j'imagine, des escaliers.
Oui, des escaliers. Et le seul contact avec l'extérieur, c'est une lune ébauchée, n'est-ce pas ? C'est à la fois dramatique et touchant.
Au regard de ces 2 dessins, et puis vous aussi de votre propre expérience de réanimateur, vous avez été confronté à des enfants maltraité. Est-ce qu'un enfant maltraité, on va dire qu'il est une issue heureuse, c'est-à-dire adopté par une famille ou que ça se passe bien dans une famille d'accueil ou retourne dans sa cellule familiale et imaginons que ça se passe mieux, est-ce que ça reste un enfant perdu ? Est-ce qu'un enfant maltraité est un enfant perdu quelque part ?
C'est un mauvais départ dans la vie, manifestement. Mais on peut espérer, et c'est le sens de l'adoption, que des soins particulièrement attentifs et affectueux d'une famille généreuse arrivent à effacer le souvenir dramatique des premières années de sa vie. Surtout si l'enfant est confié à l'adoption très tôt, dans les premiers mois. Mais si, des années durant, il a subi des sévices, il est sans doute marqué pour la vie et sera, les statistiques le montrent, dans une grande proportion des cas, lui-même, un adulte maltraitant. Ceci a été établi d'une façon certaine.
Est-ce qu'au cours de votre rapport, à un moment donné, vous vous êtes penché, même succinctement, sur le devenir de ces enfants, une fois adultes ? Que deviennent-ils, ces enfants ? Ils arrivent à s'insérer dans le milieu social assez facilement, quand même, ou ça reste difficile ?
Il y a eu un travail de Mme Séléné sur cette question. C'est de toute façon très difficile. Et il y a des succès retentissants, il y a des échecs patents, Mais il faut dire que c'est vrai aussi dans n'importe quelle famille. Tout ne se passe pas toujours très bien. Mais j'avance un chiffre tout de même, c'est que 30% des enfants des SDF sont d'anciens enfants placés. Ce qui donne tout de même une idée de la marque quasi indélébile que des sévices font subir à un enfant.
Qu'est-ce que l'on peut envisager pour accélérer ces procédures juridiques qui favoriseraient, en l'occurrence, puisque c'est votre souhait, l'adoption de ces enfants maltraités ou en tout cas qu'on arrive à déceler plus rapidement ces sévices, qu'on arrive à les faire reconnaître et qu'ensuite on arrive à placer ces enfants dans des familles d'accueil ou chez des parents candidats à l'adoption, mis à part les lois qui ont été d'ailleurs édictées successivement au cours de ces 20 dernières années.
Oui. C'est-à-dire, il y a deux aspects dans votre question. D'abord, le traitement. Peut-on améliorer la situation actuelle? C'est le but des recommandations que nous avons présentées dans ce rapport. Je ne peux faire autrement que de vous les indiquer rapidement. Simplifier les structures administratives et judiciaires de prise en charge des enfants en danger et harmoniser leur fonctionnement pour accélérer les procédures, c'est certain. En cas de sévice avéré, retrait des droits parentaux qui permet l'adoption. Ce retrait doit être prononcé même sans condamnation pénale, sans délai. L'intérêt supérieur de l'enfant justifiant le sacrifice du lien biologique avec les parents maltraitants. Le diagnostic de maltraitance porté, le médecin devrait obligatoirement le signaler aux autorités, faire un signalement, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et la réforme de l'article 4 du Code de déontologie et des articles correspondants du Code des affaires familiales et du Code pénal devraient être envisagées. En ce qui concerne les intérêts parentaux, l'observation renforcée, approfondie, pendant 6 mois, devrait suffire.
On n'a pas parlé du désintérêt parental au cours de cette émission.
Oui.
On en a parlé très rapidement. Juste un mot sur ce désintérêt parental. C'est le parent qui ignore l'enfant, qui ne lui donne pas les soins.
D'après la définition qu'on a donnée le Code civil, c'est le comportement des parents qui n'ont pas entretenu les relations nécessaires au maintien de liens affectifs avec les enfants.
Donc très difficile à déterminer.
Très difficile à prouver. C'est la raison pour laquelle il faut renforcer l'observation en tenant compte de l'avis des enseignants, du médecin scolaire, de l'entourage, des consultations hospitalières, bref, des dessins qui sont aussi révélateurs dans certains cas, de façon à avoir la certitude du désintérêt. Maintenant, la création de familles d'accueil bénévoles, on en a parlé tout à l'heure, aurait l'avantage de redonner à l'adoption son sens véritable, qui est celui de donner une famille à l'enfant et pas l'inverse.
Mais ça fait de la concurrence avec les familles d'accueil classiques?
Non, les deux filières pourraient fonctionner simultanément, n'est-ce pas? Il y aurait sans doute moins d'amateurs dans le cadre de la filière bénévole, mais au moins, ils seraient assurés que c'est le bonheur de l'enfant qu'ils recherchent et pas simplement leur satisfaction égocentrique d'avoir un enfant. Il y a également d'autres possibilités concernant l'accouchement sous X qui est menacé mais qui devrait être maintenu parce qu'il permet à la femme qui en a le courage d'assumer une grossesse difficile. Ce sont souvent des jeunes filles en grande détresse sociale et familiale. L'accouchement sous X doit leur permettre de résister à la tentation de l'avortement, de l'infanticide. Les éboueurs trouvent de plus en plus souvent des enfants asphyxiés dans les poubelles ou dans les déchetteries. C'est tout de même quelque chose d'impressionnant.
Et les cas médiatiques sont de plus en plus importants.
Exactement, oui. Alors ça, c'est les recommandations. Maintenant, dans le domaine de la prévention, que peut-on faire? Il faudrait changer les mentalités. Or, Montesquieu,
les mentalités des parents.
On parle beaucoup des droits de l'enfant, mais on ne parle pas assez des devoirs des parents et de leur responsabilité vis-à-vis des enfants. De remplacer la discorde par l'entente, la maltraitance par la bientraitance, le désintérêt par l'engagement et la responsabilité. Bref, l'alcoolisme, qui est souvent en cause, par la tempérance. Ce sont des vœux, parce que rien n'est plus difficile que de changer les mentalités. Montesquieu l'a dit il y a bien longtemps, mais on fait tout de même pas mal de choses. Par exemple, les consultations prénatales sont déjà l'occasion d'apprécier le comportement des parents. C'est aussi le cas au moment de l'accouchement. On peut donner quelques conseils pratiques aux mères. Dans certains quartiers, on s'occupe des enfants sur le plan scolaire, sur le plan sportif. Mais c'est surtout des parents qu'il faudrait s'occuper. Et là, je crois qu'il y a deux choses a rappelé l'importance du rôle du médecin, qui doit être non seulement un thérapeute, mais aussi un conseiller et une vigie. Et d'autre part, les médias, et en particulier la télévision, qui devrait être purgée de toutes ces scories de violence et de sexomanie, donner des émissions intéressantes qui finiraient par attirer l'attention des jeunes, et aussi des flashs très brefs, pratiques, qui, aux grandes heures d'émission et de façon répétée, permettraient de faire passer quelques slogans concernant l'alimentation, l'hygiène corporelle, l'hygiène de vie en général.
Vous êtes pour une télévision éducation.
Télévision éducative.
Merci Jean-Marie Mantz d'être venu nous voir et venu nous parler de ce rapport consacré à l'adoption nationale, un rapport qui a donc été présenté en février 2011 à l'Académie nationale de médecine. Merci à vous.
C'est moi qui vous remercie.